Radio Cité Genève.
Le grand invité. Cléa Favre.
8h03 sur Radio Cité Genève, elle est réalisatrice, elle a déjà à son actif une dizaine de documentaires. On lui doit notamment Article 43, sorti en 2008, consacré à la vie carcérale. En 2001, elle s'était intéressée aux Near-Death Experiences dans Aux frontières de la mort. Et pour la première fois, elle se penche sur le monde des médiums romans pour un film et un livre qui sortent aujourd'hui, Jour des morts. Médium d'un monde à l'autre, titre du film et du livre, a été réalisé avec Alain Maillard, journaliste, et également son mari. Bonjour Denis Gillian.
Bonjour.
Alors pourquoi avoir choisi tout d'abord de travailler sur les médiums ?
Alors c'est un processus en trois étapes, je dirais. Depuis l'enfance, je m'intéresse à la mort. La mort est notre avenir à tous, qu'on le veuille ou non. Donc c'est une question existentielle qui me paraît fondamentale. Et comme vous l'avez dit, en 2001, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser Aux frontières de la mort. Et suite à cette réalisation, j'en suis sortie avec la certitude que nous habitons notre corps, nous ne sommes pas notre cerveau. Qu'il y a effectivement une survie de la conscience et de la mémoire après le décès du corps physique. Donc, mais cela seulement 3-4 minutes après le décès du corps physique, n'est-ce pas ? Parce que personne n'est revenu pour témoigner au-delà de cette durée. Donc la question suivante était très naturellement, oui, mais qu'est-ce qui se passe après ? Et qui peut en témoigner à part les médiums ? Bon, je sais pas. Voilà pourquoi.
Alors apparemment, les cabinets des médiums font le plein. Et pourtant, on a l'impression qu'il existe une espèce de chape de plomb sur ce sujet. Pourquoi, à votre avis, on en parle peu ?
Bon, dans notre civilisation, on est vraiment dans une culture de la science matérialiste. Hein, on ne croit que ce qui s'étudie scientifiquement est dans l'ordre du visible. Tout ce qui est mystique, ésotérique et même religieux a très 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 largement disparu. Mais néanmoins, on peut sentir ces dernières années un nouvel engouement populaire, comme ça un besoin, je dirais, existentiel fort des gens qui se mettent à pratiquer méditation, yoga, enfin qui vont pas directement au but, je dirais, mais qui cherchent quand même à suppléer au manque de spiritualité, au manque peut-être des églises ou... Donc je pense que la médiumnité, ou les guérisseurs, faire appel à quelqu'un qui a le secret, etc., ça participe de ça. Hein, on a besoin de se relier à plus grand que soi, on a besoin de donner du sens. Or, c'est très difficile dans des sociétés matérialistes de trouver le sens des choses. Ben, tout à l'heure, j'écoutais les informations que vous avez données, c'est terriblement terre à terre, c'est dur. Donc je pense que cette quête de sens, on en a tous besoin. C'est une façon de le trouver, de le chercher.
Justement, face à ce scepticisme, que ce soit pour votre film sur les Near-Death Experiences ou celui-là sur les médiums, est-ce que ça a été difficile de trouver des financements, de convaincre ?
Alors, je dirais, le financement provient du cinéma, donc il n'est pas plus difficile de financer un film sur la médiumnité qu'un film sur des détenus condamnés à perpétuité, dans la mesure où c'est une démarche de cinéaste. Par contre, j'ai cherché des scientifiques susceptibles de parler, de témoigner des recherches faites actuellement sur le fonctionnement du cerveau, etc. Et là, c'est vrai qu'il y a un clivage. Pour la plupart, la grande majorité des scientifiques, c'est complètement tabou. On est des farfelus quand on ose même s'intéresser à ce type de sujet. Or, il y a quand même toute une branche de la science, et heureusement des scientifiques qui s'y penchent. Il y a des universités qui étudient la chose, mais qui sont très très peu pris en considération dans leur propre milieu. Mais heureusement, j'en ai trouvé 2-3 passionnants qui sont dans le film, mais qui sont acquis à la cause.
Vous dites, on est considéré comme des farfelus quand on s'intéresse à ce sujet. Justement, vous n'avez pas eu peur de nuire à votre carrière, vous décréditer en faisant un documentaire sur ce sujet ?
J'y ai pas pensé avant de me lancer. Là, je suis à un jour de la sortie. La question se pose, elle est chaude. On verra. Mais en même temps, je pense qu'il faut il faut oser, il faut y aller. Si personne ne se lance, les choses ne bougent pas. Donc, j'assumerai.
Alors, ce documentaire représente 3 ans de travail à plein temps. Comment avez-vous procédé ?
Bon, alors je procède toujours de la même façon. J'ai l'immense chance d'être indépendante. Ça veut dire que je pars d'une curiosité personnelle et tout le début de mon enquête est d'abord de l'ordre personnel avant que l'idée de faire un film émerge. Donc j'ai commencé par voir des médiums, par lire tout un tas de choses, par m'intéresser au sujet, jusqu'au jour où je me suis dit, tiens, ça ferait un film. L'idée est là, elle est mûre. Et je travaille avec un producteur, Pierre-André Thiébaud, PCT Cinéma Télévision, qui est en Valais, qui m'a tout de suite suivi, qui a dit oui, c'est une bonne idée. allons-y. À partir de là, on fait une recherche de financement qui a heureusement fonctionné dans une large mesure. Et après, alors j'ai pu mettre en place, je dirais, des choses très pratiques, à savoir le casting pour trouver là ou le médium que j'avais envie de filmer. Et voilà, puis... Je sais pas si j'ai répondu à votre question, mais...
Le but, finalement, c'était quoi? On sent que vous êtes convaincu. Du coup, le but de votre documentaire, c'était de prouver qu'il existe une vie après la mort?
Alors non, en aucun cas. Et je me définirais pas comme ça. Je n'étais pas convaincue. Je suis convaincue, et je l'étais, que quelque chose se passe, que les médiums effectivement obtiennent des informations qu'ils ne pourraient pas obtenir en faisant des recherches sur Internet. Par contre, d'où viennent ces informations? Est-ce que ce sont des guides spirituels? Est-ce que ce sont des défunts? Ou est-ce qu'ils vont chercher de l'information par télépathie ou dans un espèce de disque dur externe dans lequel on aurait tous finalement accès? Ça, j'en sais rien. J'étais absolument convaincue de rien. Et la question reste ouverte aujourd'hui même, je dirais. Donc j'ai fait en sorte dans le film de mettre en place un processus qui me permette et qui permette au public d'observer en direct des séances de médiumnité. Et j'ai vraiment compliqué la vie à la médium dans la mesure où elle les donne à des gens qui n'y croient pas, des personnes sceptiques. Elle le fait les yeux bandés, de façon à ce qu'on soit sûr qu'elle n'ait aucune information visuelle qui soit transmise.
Donc, en fait, il y a aussi des scientifiques qui assistent à ces séances.
Des scientifiques qui n'y croient pas. Voilà, et qui sont vraiment là, je dirais, pour la mettre en difficulté, de façon à ce que le public puisse sentir ce qu'est une séance de médiumnité, mais vivre aussi tout ce qu'on peut dire contre. Oui, mais ça ne marche qu'avec des gens qui y croient déjà. Oui, mais de toute façon, elle ou il va puiser de l'information dans l'attitude corporelle de la personne en face, etc. J'ai essayé de déjouer, en fait, tous ces présupposés pour voir, au fond, si elle arrivait à avoir de l'information. Donc, c'est très courageux, quand même. Ça, il faut le souligner de la part de la médium
d'accepter. Pourquoi ne pas avoir choisi de montrer, par exemple, tout un panel de médiums avec des médiums plus ou moins sérieux?
Oui, alors ça, c'est un choix personnel. Je travaille toujours, en fait, beaucoup sur l'émotionnel dans tous mes films. Et je crois que quand on entre dans l'intimité de quelqu'un, qu'on arrive à s'identifier à la personne, on comprend mieux les choses, on est plus proche d'une forme de vérité. Donc presque dans tous mes films, je choisis en général de suivre une, deux, trois personnes, mais d'être vraiment très, très proche d'elles. Ensuite, d'avoir trois médiums ou une, je pense que trois nous éloignent d'une forme de vérité, parce que du coup, ce qu'on observe, c'est les différences entre l'un et l'autre. Là, c'était pas le propos. Je voulais vraiment qu'on entre dans qu'est-ce que c'est que ce contact, comment ces infos se puisent, qu'on soit plus dans la relation du médium avec l'invisible, et pas dans une comparaison d'une technique à une autre.
Alors, on l'a dit, le film se focalise sur la médium Céline Boson-Sommer, qui a accepté que vous filmiez ses séances, et même que des scientifiques qui n'y croient pas y assistent. Qu'est-il ressorti de cette rencontre entre médiumnité et science?
Alors, je pense que les scientifiques qui font 15 ans d'études pour obtenir un diplôme de médecin, c'est très très difficile, tout d'un coup, en une séance de médiumnité ou en constatant qu'une personne, en ayant vu un guérisseur, peut se sortir d'un cancer grave, alors que, je sais pas, 3 ans de chimio n'ont pas réussi à la sauver. C'est très très dur d'accepter ça et de remettre en question finalement tous ces acquis universitaires, durement acquis, je dirais. Donc les gens qui ne peuvent pas y croire, qui n'ont pas envie d'y croire, ou que ça ébranle trop dans leurs valeurs, continuent à être sceptiques et même à rejeter assez fort tout ce que ça pourrait évoquer, même comme questionnement. Un scientifique de mon film appelle ça la dissonance cognitive, ce besoin de rejeter finalement une information qui vient déranger un système de valeurs. Alors ça, il y en a... Maintenant, il y a toujours des gens curieux, intelligents, qui sont remis un peu en question, qui ne le diront pas devant la caméra, mais qui le disent après, hors micro.
Alors justement, quelles sont les premières réactions par rapport à votre film? Vous avez fait des projections, tests. Qu'est-ce que ça a donné?
Bon, alors les projections test, il faut savoir que c'est auprès d'un public que je choisis. Donc il y avait des gens complètement acquis à la cause, qui connaissent très bien la médiumnité, et puis d'autres qui étaient des sceptiques purs et durs, voire très agressifs envers tout ce qui est religieux, ésotérique, etc. Donc d'avoir choisi ces personnes-là, de les inviter dans un studio de montage, induit évidemment des réactions qui sont un peu excessives, c'est ça qu'on attend d'eux. Donc là, ce que j'ai pu observer, c'est que finalement, ben, ce que je disais tout à l'heure par rapport aux scientifiques est vrai par rapport au grand public aussi. C'est que quelqu'un, par exemple, qui a perdu un proche et qui est en conflit avec lui, n'a aucune envie de le retrouver dans l'au-delà. Donc ça a suscité parfois des réactions assez agressives de rejet de voir le film, mais parce que finalement ça induit une peur. Oh là là, on va survivre à notre mort, mais alors je vais retrouver maman avec qui je m'entends pas du tout, ou je vais devoir résoudre ce que j'ai pas résolu de mon vivant. Et puis du côté des gens qui sont acquis à la cause, ben j'ai l'impression que l'espoir va toujours plus loin. On se dit, ah mais c'est génial, si j'arrive à parler à mon père décédé, mais alors peut-être que je peux aussi lui demander, je sais pas, d'aider Charles à avoir son diplôme ou je ne sais quoi. Enfin, on repousse l'espoir toujours, enfin, c'est le propre de l'humain, quoi, toujours plus loin, toujours plus loin.
Denis Gillian, vous personnellement, vous êtes convaincu jusqu'à quel point? Parce que par exemple, dans votre film, il y a une séance où on voit un médium qui enregistre des voix des esprits, là, on sourit.
Alors, moi je suis convaincue que le monde invisible est aussi important que le monde visible. Je suis pas du tout matérialiste. Une pensée, par exemple, elle est invisible, elle est impalpable, on peut pas l'observer au microscope. Voilà, donc ça c'est une conviction très profonde chez moi. Je suis convaincue qu'on survit à sa propre mort, enfin à son décès clinique. Maintenant, j'ai aucune réponse et aucune conviction sur ce qu'on devient, comment on s'organise l'au-delà, les médiums, où est-ce qu'ils vont puiser cette information. Je crois tout autant à une sorte de bibliothèque akashique, inconscient collectif, disque dur externe, qu'à finalement des contacts avec des guides et des défunts, etc. La question pour moi reste complètement ouverte. Alors il est vrai que là vous évoquez la TCI, transcommunication instrumentale, où on enregistre, on tente d'enregistrer des voix des défunts sur magnétophone. Là, on est dans un registre qui est plus difficile parce que, bah, d'une part, l'ouïe, on l'a tous, donc on peut tout de suite tous vérifier si oui ou non on entend quelque chose sur la bande. Et quelle est la part de la suggestion là-dedans? C'est vrai que la question reste complètement ouverte, mais je trouve intéressant d'avoir un clin d'œil dans le film sur la médiumnité physique.
Denis Gillian, c'est la tradition de cette interview. On termine avec des questions qui attendent des réponses concises. Vous croyez aux fantômes?
Non.
En Dieu?
En une énergie universelle.
En vous?
Parfois.
Vous pensez que vous irez au paradis?
Certainement.
La prédiction la plus curieuse que vous ayez entendue?
2012, fin du monde.
Vous a-t-on prédit le succès pour votre film ou votre livre?
Oui.
Merci Denis Gillian, votre film et votre livre, donc même titre, Médium d'un monde à l'autre, sortent aujourd'hui. Mentionnons tout de même le co-auteur, Alain Maillard, journaliste. Et puis le 6 novembre prochain, vous serez au cinéma bio à Carouge à 10h30, en compagnie donc de la médium Céline Boson-Sommer. Merci, bonne journée.
Merci à vous.